un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
La scène se passe à Berlin dans les années 30. Sally Bowles, interprétée par Liza Minnelli dans le film Cabaret, est une chanteuse américaine qui se produit au Kit Kat Club, une femme qu'on aurait dit fantasque, plus libre que les autres, mais pas encore tout à fait libérée. Alors, ce qu'elle fait pour dire sa rage quand elle en a envie, c'est crier, mais vraiment hurler. Mais elle ne crie pas n'importe où ni n'importe comment, car ça ferait mauvais effet. Alors si elle n'est pas loin d'une gare et qu'elle entend un train qui va passer et pourra masquer son cri joyeux et puissant, elle se précipite sur le quai et y va à fond. Elle se donne entièrement. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, on parle de ça. Des femmes qui crient, mais qui un siècle plus tard n'ont plus besoin de train pour cacher leur hurlement. Mais pourquoi crient-elles donc? Pour qui? Et pour dire quoi? Réponse tout de suite avec deux histoires. Je précise une fois encore, et concernant surtout la seconde histoire, que les opinions exprimées par les personnes que nous rencontrons ne reflètent pas forcément le point de vue de notre rédaction, ni n'engagent, a fortiori, celui de France Culture. Et qu'en l'occurrence, comme vous l'entendrez, l'opinion de cette deuxième personne dans la deuxième histoire a été jugée un délit. De récit signé Jeanne Meyer.
Je m'appelle Rachel, j'ai 35 ans, j'habite à Londres, je viens du sud de la France, je suis tatoueuse et chanteuse de métal. Alors là, en ce moment, je suis dans un groupe qui s'appelle Cage Fight, c'est du hardcore crossover, c'est très dur de donner un genre au métal en fait. Notre musique, c'est très simple et efficace, des guitares saturées, des cris, une musique rapide et beaucoup d'émotions. Alors, j'ai découvert le métal à l'école, aux environs de 16 ans. J'arrivais pas à écouter de la musique que tout le monde aime, je sais pas pourquoi, et j'ai essayé de trouver quelque chose de nouveau. Il y avait un groupe de personnes dans mon lycée qui écoutaient ce genre de musique et qui avaient un groupe. Et là, j'ai découvert Slipknot et des gros groupes, et je me suis plus intéressée à ça. Donc, quand j'étais ado, j'ai toujours été un peu perdue. Je sais que mes parents, ils ont fait de leur mieux possible, mais en fait, mes parents sont séparés. Donc, j'habite avec ma mère et mon beau-père, que je considère comme mon père. Par contre, mon vrai père, c'est très compliqué. Il était jamais là. Du coup, j'étais un peu une ado dépressive et sombre. J'avais pas trop de copines parce que les filles étaient vraiment neuneux. Et donc, ces musiques énervées, ça me faisait du bien. C'est vrai que ça fait ressentir des émotions, mais c'est pas des émotions négatives. Donc le premier concert auquel je suis allée, c'était Heads. Et je me rappelle que c'était très violent. Je suis allée tranquille, je me suis mis au milieu de la fosse, je me suis dit c'est bon, tout va bien. Et là, je me suis vu tout le monde autour de moi me sauter dessus. Et donc voilà, je me suis pris un coup de coude dans l'œil, je suis tombée par terre, ma chaussure était à moitié enlevée, j'arrivais pas à partir du concert. J'étais là, je poussais tout le monde. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, je dis à mon pote, quelqu'un m'a mis un coup de coude, il m'a dit c'est moi. Mais voilà, j'étais trop contente d'y être allée. Ouais. Je dirais que les concerts de métal, c'est physique. Les gens chantent, crient, sautent partout. Ça court tout le temps. Il y a une énergie de fou. Les gens qui vont dans les pogos, c'est surtout pour se défouler et se faire du bien et extérioriser toutes leurs émotions, quoi. Donc en fait, ils se poussent, mais pas violemment, ils se frappent pas, mais ils se poussent. Alors maintenant, il y a plein d'autres trucs. Il y a quelque chose qui s'appelle le Wall of Death. Donc les gens se séparent en deux et à un moment donné, ils se courent dessus. Il y a plein d'autres trucs. Bon, c'est marrant, mais ça peut faire des bleus. le côté masculin là-dedans, ça m'attirait parce que ça me donnait envie de me battre, en fait. Ça me donnait envie de prouver que bah, si on est une fille, on peut le faire aussi. Donc, quand j'avais 18 ans, j'avais des potes, on se passait des CD gravés. Et j'ai un pote qui m'a passé un CD et j'ai mis dans ma voiture et je me suis dit, mais c'est trop bien et tout. Il me dit, bah oui, mais c'est une fille. Et là, je me suis dit, bah tu sais quoi, je suis sûre que je peux le faire et je vais essayer. Et là, je mettais ce CD en boucle ou alors même n'importe quel CD en fait. Et je, même si ça criait pas, je criais par-dessus. Et je criais. Et ma sœur, qui était dans la même chambre que moi, elle pétait des plombs. Elle me disait, mais c'est horrible, t'es folle. Je disais, mais non, tu comprends pas, c'est trop bien. Et après, je me suis acheté un enregistreur cassette. Donc, je m'enregistrais, je réécoutais pour essayer de recopier la même technique, en fait. Et voilà, petit à petit, tous les jours, j'essayais de recopier. Et ça a évolué tous les jours.
Creator, get upon your legs. The world of Rogers contain more complex.
Alors, c'est juste une façon différente de placer sa voix. Donc, moi, j'ai pas pris de cours, j'ai juste essayé toute seule. Et par chance, j'ai trouvé comment ne pas me faire mal. Par contre, si t'as pas des cours, c'est pas trop conseillé parce que tu peux vraiment t'abîmer la voix. Mon premier groupe, je l'ai trouvé sur un site d'annonce sur internet. Et voilà, on était tous des ados et on a fait un essai, c'était n'importe quoi, j'ai juste crié sur leur musique, ils ont dit c'est bon. Et après c'était génial, tous les week-ends on se voyait pour répéter. Et on faisait des petits concerts dans les salles de fête et tout ça. On n'avait même pas de parole à l'époque, c'était génial. Alors par contre moi je suis une grande timide, donc je pouvais crier, j'avais aucun souci à crier, par contre je restais statique. Donc c'était vraiment mon groupe d'ados, donc c'était pas très génial musicalement, voilà. J'avais besoin de plus, donc j'ai cherché d'autres groupes. Mon deuxième groupe, ça a été toujours le même schéma. Il y avait toujours quelqu'un dans le groupe qui voulait juste coucher avec moi. Donc c'était impossible de rester dans un groupe. Et moi, bah, c'était frustrant. De une, voilà, j'avais l'impression qu'ils me regardaient comme un morceau de viande. Et aussi, j'avais pas mon mot à dire, donc c'était très difficile. Donc au bout d'un moment, j'ai dit, ah, c'est pas possible, faut que j'arrête. Alors du coup, en 2012, j'ai fait La France a un incroyable talent. Donc moi, je me suis dit, ben, j'ai envie d'aller plus loin et je vais essayer de me faire connaître par là en chantant du métal. Personne ne l'avait fait.
Bonsoir mademoiselle.
Bonsoir.
Vous venez d'où ?
De Grasse, les Alpes-Maritimes.
Et votre prénom ?
Rachel.
Et quel est votre talent ?
Le chant.
Alors allez-y,
bonne chance.
Merci.
But you know, love me now. You're good, you're wasted, je sais pas, my guilt tonight.
C'est quoi ça?
You will be the worst.
On appelle un exorciste.
Il y a quelqu'un qui a posté la vidéo sur YouTube, qui l'a appelé Rachel la voix d'homme. Donc, il n'a rien compris, lui. J'ai passé la nuit à regarder les commentaires sur YouTube. Et en une nuit, tu avais 500 000 vues. Donc tu avais des très mauvais commentaires, genre c'est un cochon, c'est quoi ce truc. Ou alors tu avais des super bons commentaires et des groupes, certains de mes groupes favoris qui ont partagé. Donc ça, c'était énorme. Et ça a complètement changé ma vie, en fait, cette émission. Parce que ça m'a aussi permis de trouver mon prochain groupe. Donc, Heads. Heads, c'était un groupe qui avait, je sais pas, 15 ans d'existence. Et c'était un de mes groupes préférés quand j'étais au lycée. Vraiment, j'écoutais ça tout le temps. C'est un groupe connu, français, qui tourne beaucoup, mais voilà. Donc après, j'ai consacré ma vie à ça. Ils avaient quand même presque 10 ans de plus que moi. J'avais 23 ans, 22 ans. Donc, on a fait des choses énormes, des festivals, on a joué au Hellfest, c'était trop bien. Par contre, voilà, c'était, il fallait être comme il voulait. Je pouvais pas m'habiller comme je voulais. Je pouvais pas. J'étais très limitée. J'avais pas le droit d'avoir un travail parce que j'avais pas le niveau et qu'il fallait que je chante tout le temps. Donc financièrement, je galérais. Donc ils exigeaient que je sois exactement comme l'ancienne chanteuse. C'était impossible. Candice était plus sexy. Elle chantait mieux. Nanana, elle avait plus d'énergie. Donc j'avais beaucoup trop de pression sur moi. Donc, ils m'ont demandé de changer mon cri un peu pour qu'il soit un peu plus émotionnel, moins rond comme je faisais. Moi, j'avais vraiment un cri de bête et eux, ils voulaient vraiment un cri plus arraché. Donc, j'ai commencé à me faire mal. Et, c'était toxique en fait. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, ah, c'est pas possible, faut que j'arrête. Donc, j'avais besoin de gagner ma vie. Donc, du coup, j'ai quitté le groupe. Je suis rentrée dans ma ville d'origine. Et là, j'ai fait une pause. Après Hetz, j'ai rencontré un guitariste qui était dans un gros groupe connu. Et il m'a dit, ma chanteuse est partie. Et j'ai un album prêt, est-ce que tu veux être chanteuse ? Donc je suis allée à Glasgow, sauf qu'en fait, c'était pas vrai. Il n'avait pas d'album. Là, j'ai découvert que la fille, elle est partie parce qu'il la traitait mal. Quand je me suis rendu compte que, en fait, ce qui l'intéressait, c'était pas ma voix, c'était plus le reste. Je suis quand même restée parce que je me suis dit, au Royaume-Uni, ça a l'air bien. J'ai fait des petites reprises sur YouTube en espérant qu'un groupe me trouve. Et là, j'ai deux personnes qui m'ont contactée. Donc, une qui est à Londres et qui s'appelle James et qui est dans un groupe dont j'étais fan. Et il me dit, j'ai un autre projet, est-ce que tu veux essayer ? On a fait deux démos et là, c'était le début de Cage Fight. Voilà, du coup, avec Cage Fight, j'ai vraiment été libre de faire tout ce que je voulais avec le chant. J'ai pu expérimenter plein de techniques que je pouvais pas faire avant. Donc, t'as plein de trucs. T'as des cris très, très aigus ou alors t'as des cris qu'on appelle les pig squeals parce que ça ressemble à des cris de cochon, en fait. C'est... Alors, je tenais vraiment à parler du sexisme et du respect pour les femmes, voilà. Donc, on a un titre qui s'appelle Respect Ends. Ça parle du regard des hommes sur les femmes, qui se croient tout permis, qui a des limites. Et pour cette chanson, on s'est inspiré de mon vécu par rapport au sexisme, au harcèlement, et aussi par rapport au vécu d'autres femmes. Donc, en France, quand j'étais dans Hetz, entre chaque morceau, t'avais à poil, oh là là. Après, t'as des gens, bizarres, quoi. Ils venaient me toucher les jambes. Donc, moi, je préfère rien dire et juste ignorer, quoi. Donc, dans le clip, il y a un gars à une table qui regarde avec un regard pervers une fille au bar. Et du coup, la fille, se laisse pas faire, quoi. Donc, elle le retrouve. Elle l'emmène dans une salle. Et puis là, elle l'attache avec une corde. Et puis, elle lui crie dessus, genre, respecte-moi, en fait. Je suis pas juste un objet, quoi. Et la fille, c'est moi. Quand quelqu'un ne me respecte pas, c'est ce que je ressens, mais ce n'est pas ce que je fais. Mais du coup, quand je crie sur scène, ça me soulage de la même façon. Sans le métal, je ne serais pas la personne que je suis maintenant. Ça m'aide à être plus forte, moi-même, avoir confiance en moi. Voilà. Si je ne fais pas de concert, je ne me sens pas bien pendant un moment. J'ai vraiment besoin du métal, donc c'est vraiment important. Je continuerai jusqu'à ce que j'ai plus de voix. Donc, j'arrêterai pas.
je m'appelle Jocelyne, j'ai 60 ans, j'habite dans la Marne, je suis enseignante et je suis aussi une militante anti-Macron. Alors, pour ce qui concerne mon engagement dans la société en tant que militante, je pense que ça vient déjà de la jeunesse. Dans mon adolescence, j'ai ressenti un sentiment de colère envers l'autorité du père. Mon père n'est pas du tout un macho ni un phallocrate, mais il a quand même tendance à vouloir prendre le pas sur ce que vit ou ce que ressent ma mère. Et donc, ce que j'ai ressenti à l'adolescence, c'est que c'était injuste, parce que c'était inéquitable comme répartition des pouvoirs entre l'un et l'autre. Et donc, le sentiment de colère, je pense qu'il est né de ça. Et ensuite, il a été intellectualisé, donc, par la lecture, je pense, du Monde diplomatique, qui est un journal réputé de gauche. Et je pense que c'est grâce à cette lecture que j'ai pris conscience des phénomènes de société qui me paraissent absolument insupportables et contre lesquels je lutte pour qu'ils ne détruisent pas la vie des gens. Il y a une deuxième chose aussi, je crois, qui a joué, c'est que comme je suis homosexuelle, donc je l'ai compris, disons, à peu près à 16-17 ans, donc j'avais un regard déjà aiguisé sur ce genre de discrimination dans la société. Et je pense que oui, personnellement, c'est ça qui a dû me conduire à refuser tout type d'injustice. Concernant donc le mouvement des Gilets jaunes, j'ai participé à partir de janvier 2019. Et pour moi, quand j'ai décidé d'aller manifester, le moteur principal, c'était que je supportais plus les inégalités de richesse en France. Et puis, dans ma vie personnelle, je l'ai constaté parce que les 15 premières années où j'ai été professeur, j'étais dans une ZEP, donc zone d'éducation prioritaire. Et c'est là que je pouvais constater effectivement les différences de richesse, de culture, de soutien scolaire entre les élèves. Voilà, ça a été vraiment le moteur principal. La deuxième raison, ça a été le fait que les gens du peuple puissent faire entendre leur voix. Et la troisième raison, petit à petit, ça a été la force de la répression policière et la nécessité de la dénoncer. Alors, moi, je n'ai jamais été dans les ronds-points. Et par contre, je participais aux manifestations tous les samedis. Donc, que ce soit à Reims ou à Chalon. Et ensuite, lorsque j'ai connu un petit groupe de personnes à Chalon, on allait en train à Paris pour des grosses manifestations. Entre 2019 et 2020, un an et demi, je pense que j'ai dû faire une manifestation sur deux chaque samedi. Moi, ce qui m'intéressait dans les manifestations, et c'est pour ça que j'avais un mégaphone, c'était de lancer des slogans, de lancer des analyses, et aussi de proposer aux gens autour de moi d'expliquer pourquoi il et elle étaient là. Et c'est là que j'ai remarqué pour la première fois, et ça m'a fait peur, quoi. J'ai remarqué à quel point les adultes avaient peur de s'exprimer. Or, si Macron peut justement dominer une masse, c'est parce que la masse n'a pas de voix. Donc concernant la vidéo qui a été faite de moi le 12 septembre 2020 à Paris, donc c'était la première manifestation importante prévue par les Gilets jaunes au plan national depuis l'été. Et donc, avec deux ou trois camarades, on avait prévu de se retrouver à Paris. Et sur le chemin de la manifestation, il y a une rangée de policiers qui se met en travers de la route et qui nous empêche de passer. Et on était environ, on devait être une quarantaine de personnes. La manifestation était autorisée, donc c'était une décision totalement arbitraire de la part des flics de nous barrer le chemin. Alors, je n'avais pas mon mégaphone ce jour-là, je l'avais oublié chez moi. Et donc, j'étais tellement en colère de voir cette violation de la liberté de manifester que je me suis mise à haranguer les personnes qui étaient là, qui étaient comme moi, qui attendaient au bon vouloir des flics. Et là, j'en ai profité vraiment pour verbaliser tout ce que j'avais emmagasiné depuis des mois.
Macron est un dictateur ! Et la seule force sur laquelle il peut compter pour être encore au pouvoir, c'est les flics militarisés et robotisés. La liberté d'aller et venir est constitutionnelle. Macron piétine les droits des citoyennes et des citoyens depuis 3 ans et demi. Réveillez-vous. Macron dictateur.
Lorsque nous sommes restés sur le trottoir, nous étions proches des policiers. Hein. Ils étaient peut-être à 1,5 mètre, 2 mètres de nous. Hein. Et donc, je faisais exprès de parler fort parce que je voulais qu'ils m'entendent. Je veux dire, quand je dis que la liberté de manifester est constitutionnelle, je voulais vraiment que ma voix soit entendue par ces gens qui obéissent simplement à des ordres et qui ne sont plus des citoyens. Donc, c'était vraiment un message très, très fort qu'il fallait délivrer. Alors, quand on a un mégaphone, il y a quelque chose qui médiatise. Alors que là, si on a juste la voix, c'est tout le corps qui est engagé. Et oui, la colère a monté encore plus parce qu'il y avait cet effort physique que je devais faire pour me faire entendre.
Allez-vous ! Macron ! Destitution ! Macron ! Explosion !
Alors, cette diatribe était totalement improvisée, et notamment le slogan final. Là, franchement, quand j'ai dit destitution, bah, c'est ce que je veux. Et le mot décapitation est venu juste après parce que il rime, déjà. Et ensuite, parce que c'était la référence vraiment à Louis XVI, guillotiné après son procès. Et puis, explosion, bah, je pense que c'était le résultat de cet effort physique. Parce que quand on sort des mots de colère, oui, c'est comme si ça explosait à l'extérieur de soi. C'est ma colère qui a explosé et c'est aussi le désir que le peuple entier se révolte dans ce même mouvement d'explosion. Les policiers sont restés évidemment flegmatiques. Quelques minutes après, je pense qu'on n'a pas attendu plus de 5-10 minutes, les policiers nous ont laissé passer et on a pu rejoindre le lieu de rassemblement. Et donc, j'avais pas vu qu'il y avait un monsieur qui me filmait. Voilà, donc après le 12 septembre 2020, il s'est passé une période de 6 mois avant que j'en entende parler d'une vidéo où on me voyait haranguer et faire une diatribe contre Macron. Et c'était un monsieur qui l'avait publié dans sa page Facebook. Étant donné que je ne suis pas dans les réseaux sociaux, je n'avais aucune conscience qu'elle tournait énormément. Et à peu près au même moment, en mars 2021, donc la procureure de Châlons-en-Champagne m'a envoyé des gendarmes de SWIP pour me convoquer. Sans me dire pourquoi. Et finalement, j'ai obtenu un écrit du gendarme où il était écrit que j'avais exercé des menaces de mort contre un élu. Et c'est en septembre-octobre 2021 que j'ai eu la confirmation, par un document écrit, que j'étais accusée d'avoir menacé de mort Emmanuel Macron, avec ce slogan « destitution, décapitation, explosion ». Donc, j'ai contacté un avocat dans les Vosges. Et l'audience a été très fructueuse pour moi parce que j'ai pu constater que j'avais du soutien auprès de la population, puisque j'ai appris à cette occasion qu'il y avait des messages de soutien qui passaient dans les réseaux sociaux. Et il y a eu une trentaine de personnes qui sont venues physiquement de différents départements pour me soutenir à l'audience. Donc j'avais pas du tout peur, je me suis dit simplement que c'était le risque du métier. Et en comparaison avec d'autres personnes qui physiquement ont été impactées par des tirs de LBD, par des tabassages de flics, par des coups de matraque, etc., ben, je savais que j'avais de la chance. Donc mon avocat m'avait dit « je suis certain que la procureure va vouloir diffuser la vidéo ». Et j'avais dit « bah tant mieux, parce que si jamais elle prend cette décision, moi je vais exiger qu'elle la diffuse en entier, parce que je veux qu'on entende toutes les paroles que je dis avant le slogan final ». Et je pense que la procureure a eu peur que l'auditoire réentende mes propos. Et donc, il n'y a pas eu de diffusion de la vidéo, ce qui a beaucoup surpris l'avocat. Voilà. Donc, cette audience du 28 mars 2022 a été très fructueuse pour moi parce que mon avocat a bien plaidé et j'ai pu avoir le dernier mot. Et j'ai notamment conclu par cette phrase de La Rochefoucauld. Ils ont beau faire, la vérité finit toujours par percer les ténèbres qui l'environnent. Donc la peine que j'ai eue le 28 mars 2022, puisque la juge a statué immédiatement, c'est premièrement 3 mois de prison avec sursis, et, puisque c'est de la prison avec sursis, un contrôle judiciaire en gros pendant 2 ans.
Ah,
Donc aujourd'hui, nous sommes 2 ans et demi après que j'ai fait ma diatribe improvisée contre Macron, le 12 septembre 2020, et je n'ai absolument aucun regret. Il y a peut-être une seule chose que je regrette, parce que maintenant la vidéo elle est indélébile, c'est la dernière phrase que je prononce après explosion, c'est quand je dis il faut lui exploser la gueule à ce dictateur. Donc c'est le mot gueule qui est effectivement familier, et comme je suis professeur, je dis toujours aux élèves qu'il faut utiliser le langage courant ou soutenu. Donc je pense que les mots que j'ai prononcés, ils ont été entendus. Et ce qui me fait dire ça, c'est que depuis ce moment-là, à chaque fois que je participais de nouveau aux manifestations en 2021 et 2022, il y avait au moins un ou une jeune qui me reconnaissait et qui voulait être pris en photo avec moi. Et donc, la dernière fois que j'ai vu des jeunes, c'était à Metz, c'était il y a environ 3 semaines, dans une salle de sport, ils m'ont reconnu, et du coup on a discuté 20 minutes. Et ces jeunes-là m'ont dit que les paroles que j'avais prononcées avaient eu de l'influence. Et donc ça, ça m'exalte, parce que c'est exactement mon travail de professeur. À la fois transmettre un message, mais aussi faire prendre conscience. Et si ça a eu cet effet-là, eh bien tant mieux.
C'était Des femmes qui crient, un reportage de Jeanne Meyer réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Jocelyne, Rachel et DJ Magès. C'est Céline Paris, l'attachée de production des Pieds sur Terre. C'est Rita Ruggirello, notre stagiaire. Sur notre site, à la page des Pieds sur Terre, vous trouverez les références du groupe où chante Rachel, qui s'appelle Cage Fight, et des dates pour pouvoir l'entendre.